Dans ce cadre, il y a un élément important qui est la relation entre sociologie et critique. Et donc c'est un peu de ça dont je vais parler ce soir en essayant ensuite de tester ce que je vais dire à propos d'une notion assez importante en sociologie critique qui est celle de domination. Et donc si vous voulez, je vais prendre en commençant ces deux termes, sociologie et critique, de façon, on va dire, hyper bas de gamme, en désignant la sociologie comme étant une discipline universitaire se réclamant généralement de la science, entre guillemets, et organisée autour d'un ensemble qui n'est pas nécessairement cohérent de notions et de méthodes, et qui vise l'identification et la description d'un objet qui va être, on ne sait pas trop quoi, d'ailleurs, le social, la société, etc. Et par critique, je vais entendre la mise en cause du monde tel qu'il est, maintenant, et plus précisément, toujours du monde social et de la société, mais envisagé dans leur dimension négative, tout en considérant que leur pente a dégénéré, comme dit Rousseau, n'est pas fatale et que ce monde peut changer sous l'action des hommes. Il s'agit donc d'une critique politique, orientée vers un changement politique. Alors, bien évidemment, sociologie et critique sont extrêmement proches. D'abord parce qu'ils ont le même objet, qui est le social, la société, etc. Que cet objet est doublement historique, historique au sens où il se modifie dans l'histoire, et historique au sens où, comme maintenant c'est un leitmotiv de le dire, l'invention du social et de la société se fait, pour dire vite, entre le milieu du 18e et le milieu du 19e, à peu près en même temps que se forme la critique au sens moderne. Et sociologie et critique sont également proches, à mon sens, du fait du rapport, de la position adoptée par rapport à leur objet, puisque dans les deux cas, la prise sur l'objet suppose la constitution d'une extériorité. Une extériorité formée à la fois d'instruments intellectuels et de dispositifs. Dans le cas de la critique, ça semble assez clair. Pour faire l'objet d'une critique, le dit social doit pouvoir être considéré comme pouvant être autre, et donc depuis une altérité possible. Mais cela vaut aussi pour la description sociologique. La sociologie, à mon sens, est un prolongement des sciences historiques, ce qui n'est pas évidemment unanimement reconnu par les sociologues, et elle est en quelque sorte une histoire du présent. Les historiens disposent d'une espèce d'extériorité, on va dire naturelle, pour dire vite, liée au fait qu'ils ne vivent pas dans l'histoire qu'ils décrivent. Mais dans le cas de la sociologie, ce n'est pas le cas, et quand le sociologue reste immergé dans le cadre qu'il veut décrire, eh bien, au fond, il n'a rien à dire, et il lui faut construire une extériorité, même si elle n'est pas explicitement mise en place, de façon à voir le monde qu'il veut décrire de l'extérieur, en voir le cadre et pouvoir l'historiciser, le relativiser et par là le décrire. Et à mon sens, ce qui différencie une sociologie d'expertise et une vraie sociologie, c'est que la sociologie d'expertise ne va pas construire une extériorité de ce type, elle va rester dans son objet, elle va prendre juste le minimum de distance pour faire un peu de bricolage local et par exemple travailler la relation entre deux variables, etc. Tandis qu'une sociologie qui a les ambitions de cette discipline va s'établir depuis une extériorité. Ceci étant, et va tenter de décrire le cadre lui-même dans lequel sont immergés les objets. Ceci étant, il y a quand même deux différences tout à fait importantes. La première concerne la question du jugement et la seconde, celle de l'action. Et elles sont toutes deux en partie construites sur une mauvaise foi. La critique n'est pas gênée à l'idée de porter un jugement sur le monde social. Un jugement normatif, d'une certaine façon, même si évidemment cette normativité n'est pas nécessairement une normativité d'ordre moral. Tandis que la sociologie prétend, c'est son point d'honneur, pouvoir se placer, ce qui à mon avis est impossible, mais bon, pouvoir se placer dans une position de pure description sans rien dire de la valeur des objets qu'elle décrit. La seconde différence tient évidemment à la relation à l'action, puisque la critique n'a de sens que si elle est orientée vers une action de changement, vers la révolution, tandis que la sociologie est très embarrassée par rapport à la question de son action, particulièrement quand elle est imprégnée de positivisme, ce qui est fréquemment le cas, et qu'elle cherche à établir des lois et des régularités aussi puissantes que celles qu'elle imagine établies par les physiciens ou les biologistes, qui loin d'être le cas. Il n'y a plus qu'en sciences sociales qu'on voit encore des gens qui croient à cette forme de scientificité. Mais bon. La tension entre l'exigence de description et l'exigence critique est forte, y compris dans les courants qui se sont réclamés de la sociologie critique. Alors si on voulait faire toute cette histoire, pratiquement il faudrait des 40 volumes, et ça serait l'histoire des sciences sociales depuis 100 ans, 150 ans, qui s'articule presque complètement autour de la question de la relation de la critique et de la sociologie. Moi, je vais en prendre schématiquement un segment très court qui va des années 70 à aujourd'hui. Je le ferai à propos d'une notion qui a été centrale pour la sociologie critique, particulièrement pour la sociologie critique d'où je viens, où j'ai été formé, qui est la sociologie critique de Pierre Bourdieu. Donc, dont j'ai été l'étudiant puis l'assistant pendant une dizaine d'années. J'essaierai d'identifier ce qui me semble problématique dans la façon dont cette sociologie a abordé la question de la domination, et pourquoi, d'une certaine façon, cette sociologie critique a à la fois réussi et échoué. Et puis, je ferai un passage par un genre de sociologie que nous avons essayé de mettre en place, moi et des collègues et amis, il y a une vingtaine d'années, que nous avons appelé sociologie de la critique. Et puis j'essaierai de montrer pourquoi elle a échoué aussi. Je vais tester malgré tout la possibilité de reprendre la question de la domination en prenant appui sur certains des outils mis en place par cette sociologie de la critique. Alors, premier point, qu'est-ce qui n'a pas marché, à mon sens, qu'est-ce qui a été problématique dans la sociologie critique, particulièrement par rapport à ce concept qui était le concept principal de la sociologie critique de domination. Je pense qu'un des problèmes a été l'extension trop grande donnée à la notion de domination. C'est-à-dire la tendance à décrire l'ensemble des relations sociales comme des relations de domination et à négliger l'expérience des acteurs et ce qu'ils en disaient. On été décrits comme relations de domination, évidemment des relations patentes de domination, comme des relations d'esclavage, des relations d'exploitation dans le cadre du capitalisme, mais aussi bien des relations de dons et de contre-dons dans des sociétés traditionnelles, etc. Un autre problème a été, me semble-t-il, l'extension très problématique, c'est un problème très compliqué, de l'idée de violence physique vers l'idée de violence symbolique. Qui malgré tout, si vous voulez, quand vous pouvez décrire de la même façon un camp de vacances et un camp de concentration, je caricature, il y a quelque chose qui cloche.
Je ne devrais pas.
Il y a quelque chose qui cloche dans la sociologie que vous faites. Et cela a conduit à mettre fortement l'accent sur les illusions de l'acteur, sur le fait que l'acteur était abusé. Moi je ne crois pas à ça du tout. Que les acteurs étaient abusés par les idéologies dans lesquelles ils étaient plongés, et du même coup a développé une asymétrie fantastique entre le sociologue, un peu comme le psychanalyste par rapport à son client, le sociologue capable de dévoiler les formes de domination pesant sur l'acteur, dont l'acteur lui-même n'était pas conscient, ce qui a enfin tendu à sous-estimer les effets de réflexivité dans la vie sociale et notamment de retour des sciences sociales sur le monde social qui joue maintenant un rôle extrêmement important, comme on va le voir, y compris d'ailleurs dans les nouvelles formes de domination, à mon avis. Alors, les conséquences ont été, à mon avis, importantes d'une part du côté de l'action, parce que le caractère déterministe du programme et l'accent mis sur l'inconscient ne permettaient pas de construire réellement une analyse de l'action qui suppose qu'il y ait une relative incertitude. Si vous n'avez pas d'incertitude, vous n'avez pas d'action. Et d'autre part, évidemment, c'était très souvent dit, un difficile du côté de l'analyse des possibilités de changement. Alors, par rapport à partir de ces critiques, nous avons développé un programme de sociologie de la critique. On a appelé ça sociologie des pratiques critiques ou sociologie de la critique. Avec dans l'idée, si on veut, c'était un détour de production, si vous voulez, si on veut développer, si on veut mieux fonder une sociologie critique, il faut mieux comprendre ce que font les acteurs quand ils critiquent, leur capacité critique, au lieu de toujours mettre l'accent sur leur côté cultural addicted, comme disent les ethnométhodologues. Et donc on a fait tout un ensemble de choses. D'une part, on a développé un grand nombre de terrains dans des situations qui étaient d'habitude des situations publiques où les gens étaient susceptibles de disputer, par exemple, je ne sais pas, des municipalités, des conseils de classe, etc., etc., tout un ensemble de lieux. Et puis on a également développé beaucoup de travaux sur ce que nous avons appelé des affaires, c'est-à-dire sur des cas dans lesquels une dispute parvenait dans l'espace public et dans lequel tout un ensemble de façons différentes de décrire ce qui s'était passé se trouvait confronté. Le modèle étant en France l'affaire Dreyfus. Mais on a cherché à montrer comment l'affaire, qui naît pour dire vite au XVIIIe siècle, était devenue une forme sociale, proprement dite, marquée par une très grande incertitude sur ce qui est. D'une manière générale, si vous voulez, je fais une parenthèse, la question de l'incertitude est très importante dans ce que nous faisons et dans ce que j'essaie de mettre en place maintenant. Au fond, je pose des...